ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre ce jour.
Salutations, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud 92.2, c'est la voix du magazine. Aujourd'hui, une émission sur le festival Signaux et la langue des signes comme médium social et artistique. Avec nous dans les studios pour nous en parler, Océane
Bretin.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va ?
Oui, et toi ?
Très bien, merci. Alors déjà, petite parenthèse, j'ai volontairement utilisé le texte de présentation classique du mag. Et en deux lignes, il y a le mot « écoute » et le mot « voix ». C'est-à-dire que tout le vocabulaire et la représentation autour de la communication sont liés à un imaginaire de la parole et de l'écoute.
Et oui, bah c'est normal. C'est toute notre communication, toute notre façon de... Oui, tous nos médias sont liés à l'écoute et à la voix, puisque c'est une société où principalement nous avons plus de personnes entendantes que de personnes sourdes. Mais ça n'est pas nécessairement incompatible. Maintenant, avec la vidéo, on sait qu'il y a des possibilités d'avoir accès au studio de radio grâce à des vidéos qui permettent avec des sous-titres. Donc en soi, ça n'est pas choquant.
Exact. Donc on va un peu... découvrir ce monde qui est inconnu en fait pour les entendants et entendantes. Vendredi dernier avec Marie-Madeleine, alors on a déjà évoqué dans le mag le festival Signaux qui aura lieu du 16 au 18 septembre dans plusieurs lieux sur Toulouse. Tu veux déjà un peu parler des spectacles ?
Oui, je peux. Donc effectivement, le festival Signaux qui reprend cette année, et ça on en est vraiment très heureux. La compagnie ACT a pu du coup élargir ses partenariats grâce au Théâtre du Grand Rond, au Théâtre Sorano, à la salle municipale du Phare à Tournefeuille, qui est une salle de musiques actuelles. Et donc du coup, nous avons plusieurs spectacles dans ces différents lieux et ce qu'on appellerait un village qui aura lieu aux allées François Verdier, qui nous permet d'avoir un endroit de visibilité dans l'espace public qui est totalement ouvert à tous, gratuit, avec des animations en langue des signes, des animations visuelles, même des tambours sourds, des tambours faits par des personnes sourdes. Et qui permettent d'avoir une vie sociale durant un week-end et à créer un lieu de sociabilité pour permettre aux personnes sourdes de s'y retrouver entre les différents spectacles. Et du coup, effectivement, le samedi sur la journée, nous aurons deux spectacles qui sont faits par d'anciens étudiants de l'École de théâtre universel, qui est une formation de comédiens qui était à l'Université Jean Jaurès. Là, elle a un petit peu bougé, mais... Donc voilà, c'était la seule formation qui existe en France pour les comédiens sourds. Et donc du coup, on a décidé de leur permettre de monter sur scène et de montrer aux professionnels, on espère, que le spectacle en langue des signes existe et que ces comédiens sourds professionnels existent. Nous aurons donc chez Gabriel, l'abbé Sicard. Et ensuite, au Théâtre Sorano, nous accueillons l'IVT. Donc la dernière création de l'IVT qui est de Paris, l'épopée d'Hermès avec Emmanuel Labori, créée par Emmanuel Labori, pardon. Et nous avons une fameuse Def Party à Tournefeuille. La fameuse.
Tant attendue.
Ah oui, fameuse Def Party à Tournefeuille qui sera aussi une découverte pour l'équipe, ouais. En tout cas les personnes entendantes de l'équipe. Ça va être un grand moment. Et nous avons aussi un jeune public qui tournera le dimanche deux fois, le syndrome de Panck de la compagnie Le Compost. Pareil, tout est bilingue, tout est ouvert aux sourds et aux entendants afin de permettre la mixité, qui est une des valeurs piliers du festival, comme nous l'avons beaucoup écrit dans nos textes.
Alors c'est vrai que sur le programme, il y a des précisions concernant les spectacles, notamment si c'est du théâtre visuel, du spectacle bilingue français langue des signes, bilingue langue des signes français, spectacle exclusivement langue des signes.
Alors, nous avons du théâtre, le théâtre visuel, c'est vraiment le théâtre où le plus important, c'est vraiment le visuel. Donc, c'est, on le dit souvent, pour, on utilise beaucoup ça pour dire que ça peut être accessible aux personnes sourdes, parce que du coup, c'est extrêmement visuel. Ça peut être de la danse, ça peut être du théâtre d'objets, ça peut être de la marionnette, par exemple. Nous, là, sur le festival, vraiment, le spectacle sera très visuel. C'est le joueur d'échecs qui joue actuellement au théâtre du Grand Rond, aux prémices du festival.
Ouais, ça a commencé hier. Hein,
ça a commencé hier, on joue jusqu'au 15 septembre. Et là, c'est extrêmement visuel. Pas de paroles, quasiment pas de signes. Et tout passe par le visuel. Donc, c'est une adaptation libre et visuelle du joueur d'échecs. Donc ça, vraiment, pour le coup, c'est vraiment ouvert à tous, parce que ça parle, enfin ça parle, encore un petit mot pour entendant, mais ça, disons que tout le monde peut ressentir le spectacle, les jeux du comédien, c'est le plus important, enfin, des comédiens. Le spectacle, les créations, ce qu'on appelle les créations bilingues, c'est des créations qui en fait ont été pensées dans les deux langues dès le départ, dès le tout début du processus de création. Ce sont un comédien sourd ou une comédienne sourde, un comédien entendant ou une comédienne entendante qui jouent ensemble au plateau et qui ont créé dès le départ dans les deux langues. La dramaturgie est développée comme telle. Par exemple, Ça recommencera, qui joue au Théâtre Sorano pour notre inauguration vendredi, est un spectacle bilingue, qui a une comédienne entendante, donc Lucie Lataste, et Olivier Calcada, comédien sourd, et les deux performent ensemble au plateau. Pour des spectacles exclusivement en langue des signes, et donc pour les personnes sourdes, nous n'en avons pas, puisque pour nous, il fallait vraiment que tout le monde puisse venir partout. Et donc du coup, pour Chez Gabriel, par exemple, qui a été créé au départ en langue des signes, une adaptation en voix off a été faite pour le festival, afin que tout le monde puisse y accéder. Donc là, c'est une adaptation, parce que la langue, l'autre langue, que ce soit la langue française ou la langue des signes, est venue s'apposer après la première création. Donc ça devient une deuxième création, qui est différente, mais qui voilà, est accessible, ouverte à tous. Donc ça permet de, voilà, soit que les personnes sourdes puissent venir, soit, dans ce cas-là, que les entendants puissent y accéder. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'il y avait d'autre ? Je crois qu'on est bon.
Oui, tout ce qui est le bilinguisme, des deux côtés.
Oui, bah, du coup, c'est vrai que le bilinguisme, moi, je le vois vraiment comme... il existe à partir du moment où les deux langues existent dès le tout début de la création, de la première étape de création, la première résidence. Pour moi, ça, c'est un spectacle qui est bilingue, parce que la dramaturgie est pensée comme telle. Les deux langues évoluent ensemble, elles sont interdépendantes l'une de l'autre, et les deux comédiens ne sont pas chacun de leur côté. Il y a des vrais échanges de langues, voilà, il y a vraiment un jeu avec les langues. Pour citer un spectacle que moi j'aime beaucoup, qui ne jouera pas malheureusement au Festival Signaux, mais c'est L'Analphabète, qui est une création bilingue, qui a été créée par le collectif Les 3-8 à Lyon, et où il y a Anne de Boissy, comédienne entendante, et Isabelle Boiseux, comédienne sourde, que nous accueillerons sur l'épopée d'Hermès, du coup, le samedi soir. Et c'est un spectacle bilingue parce que le texte a été pensé pour qu'il touche aussi les personnes sourdes. Il peut toucher beaucoup d'autres personnes, mais comme ça touche à l'exil, à la langue maternelle et au fait que notre langue maternelle n'est pas forcément la même que la langue du pays qu'on habite, ce qui est le cas pour les personnes sourdes, puisque leur langue, c'est la langue des signes, mais elles vivent dans un pays où c'est la langue française qui est la première langue, je dirais, et que l'accès à la langue des signes est primordial pour pouvoir ensuite apprendre le français, avoir une langue de base pour ensuite apprendre une autre langue, donc créer des points de repère, et les personnes sourdes n'ont pas forcément encore beaucoup cette possibilité-là. Ça se développe, mais il y a encore quelques anicroches, on dirait. Et le texte a été pensé pour ça, pour toucher aussi cette communauté-là. Et là, pour moi, c'est bilingue, parce que c'est les deux langues sont au plateau. Le texte peut toucher les entendants, et en même temps, il ne parle pas des personnes sourdes, mais métaphoriquement, les personnes sourdes se reconnaissent. Et ça, pour moi, c'est totalement bilingue. Une adaptation, c'est pour moi différent. C'est fait pour rendre accessible un spectacle. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, ça permet effectivement d'avoir une interaction entre les sourds et les entendants, puisque nous allons traduire un texte.
Ouais, voilà, c'est vraiment de la traduction.
C'est la traduction de texte, et ça, la traduction, eh bien, c'est ce qui nous permet de lier les deux cultures. On parle de culture sourde, eh bien, traduire un texte, c'est un métier. Traduire un texte en langue des signes, c'est un métier. Et c'est une transposition d'un texte entendant dans la culture sourde. Et ça, ça permet de créer des liens. Et l'adaptation, pour ça, permet de... Voilà, permet vraiment d'ouvrir des spectacles à des personnes, aux personnes sourdes, à des spectacles auxquels elles n'auraient peut-être jamais eu accès. Par exemple, il y a eu un opéra à Colmar, Comédie de Colmar, je crois. Enfin, il y a eu un opéra qui a été adapté et ouvert aux personnes sourdes. Juste à la fin du processus de création, mais ça a permis à des personnes sourdes de voir un spectacle d'opéra. C'est pas rien, c'est une culture qui, enfin, c'est une forme d'art qui est importante pour un certain nombre de personnes dans notre pays, et ça leur a permis de voir aussi, de voir l'opéra. Et c'est toujours très intéressant, non seulement pour les personnes, les comédiens sourds et entendants qui sont appelés à faire ces traductions, et pour les publics sourds qui peuvent ensuite y avoir accès. Ça ouvre vraiment le champ des possibles aux personnes sourdes.
Donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'ambiguïté, selon tes propos, la langue des signes est une langue vivante, actuelle.
Oui.
Et pas uniquement une méthode de traduction, en fait, pour valoriser la langue française qui serait supérieure.
Non, pas du tout. La langue des signes existe depuis très longtemps. C'est juste que comme elle est évanescente, enfin, on ne peut pas vraiment la fixer sur papier. On n'a pas beaucoup d'histoire en soi de la langue des signes, mais c'est une langue qui du coup, reste jeune, d'une certaine façon, ouais. Puisque... on n'a pas d'histoire de la langue, donc c'est une langue qui reste très jeune et qui s'actualise et qui naît beaucoup du territoire sur lequel elle est. La langue des signes entre les différentes régions de la France n'est pas la même. La langue des signes française entre les différentes régions n'est pas la même. Moi, je l'ai apprise à Lyon, et quand je suis arrivée à Toulouse, je me suis rendu compte qu'il y avait des signes.
Il y a des spécificités, en fait.
que je ne gérais pas du tout. Et à chaque fois, moi, je faisais un signe. Enfin, à chaque fois. Sur ces signes-là, je faisais un signe et on me disait « Ah, c'est pas ça ». Et donc, bon, du coup, c'est parce que ça naît du terreau, voilà, du terreau culturel, du visuel de la personne. Et... il y a des grands débats dans dans les communautés sourdes, elles sont assez plusieurs, mais là, je ne vais pas vraiment développer parce que ça demande beaucoup de connaissances et je préfère ne pas me lancer dans ce sujet-là. Mais il y avait sur la question de la fixation de la langue des signes, sur le fait de fixer des signes et de les normaliser d'une certaine façon.
Si on est pour ou contre, c'est ça?
Oui, ouais. Et il y a un vrai débat, puisque par exemple, un comédien avec qui on avait eu un entretien pour un projet de recherche qui s'interrogeait sur ces questions-là, nous disait, mais enfin qui, par exemple, quand on va pointer dans une entreprise, qui va valider le fait qu'on pointe à la verticale dans la machine, ou à l'horizontale, ou d'une autre façon, la façon dont on pointe dans une machine, le signe ne sera pas le même, puisque le visuel n'aura pas été le même pour la personne. Ça marche pas pour tout, mais je trouve que ça permet de se rendre compte que c'est une langue qui est extrêmement visuelle et qui se nourrit des à côté, de ce qu'elle voit, de ce qu'elle vit. Je trouve que c'est assez particulier pour une langue que nous, on s'actualise aussi beaucoup dans notre langue. Mais c'est des langues vivantes, donc ça s'actualise pas pareil.
Puis voilà. Ça va aussi avec les systèmes de pensée, je trouve.
Oui.
Parce qu'on évolue aussi, on peut évoluer sur nos concepts, nos engagements.
Tout à fait. Je sais que la langue des signes, en plus... Elle s'actualise énormément aussi, effectivement, aux nouveaux mots qu'elle voit passer, aux créations des mots, parce que c'est une langue qui est très jeune, donc c'est pareil, il y a des choses qui n'intéressaient peut-être pas, des concepts qui n'avaient pas été abordés avant, et qui n'avaient pas été abordés non plus dans notre société, et donc du coup des signes ont été inventés ensuite pour ces concepts qui commençaient à entrer, à devenir très importants. Je ne sais plus exactement, mais je sais que par exemple le signe non binaire, c'est quelque chose qui est assez jeune et tout le monde ne le signe pas tout à fait pareil. Vraiment sur ces questions-là, je pense à ça parce que c'est des questions qui nous touchent énormément en ce moment, qui peuvent beaucoup faire débat. Mais voilà, elles s'imprègnent et elles se créent au fur et à mesure. Et c'est ça qui moi m'attire beaucoup dans la langue des signes.
Ouais, c'est ancré dans la réalité de son époque.
C'est ça.
Sur le texte de présentation de Signaux, on peut lire que le festival promeut la langue des signes comme un médium artistique. Il a pour vocation de rendre visible la culture sourde, la langue des signes et par extension l'art sourd dans l'espace public, et de permettre les rencontres entre entendants, signants, signantes ou non, et sourds, sourdes autour des pratiques artistiques dans cette langue. Donc il y a plusieurs notions fortes dans ce texte. Vous parlez de culture et d'art sourd. Donc est-ce qu'il y a une culture revendiquée par une communauté culturelle et linguistique.
Oui, et elle est liée en fait à la langue des signes. Leur culture, c'est la langue des signes et tout ce qui en découle, donc une culture très visuelle. C'est très important, c'est ce qui fait la différence avec nous. Pour eux, vraiment, le monde est visuel. Et pour donner un exemple, pour permettre de comprendre, une comédienne m'avait raconté que lorsqu'elle était jeune, elle regardait les entendants et elle voyait la bouche bouger. Et elle se disait, à quoi ça sert? Et elle regardait très très fixement en se disant, les images vont forcément sortir de cet endroit, ça peut pas être autrement. Et voilà, c'est mignon, c'est un enfant qui découvre qu'en fait il est dans un autre monde, dans une autre façon de penser et d'appréhender le monde, qui est liée vraiment au fait que ben, quand on n'a pas nos oreilles, quand on n'a pas d'ouïe, et ben du coup on fixe sur le visuel, sur tout ce qu'on a autour de nous, sur les corps, sur les déplacements, etc. Et ça, c'est vraiment une pensée.
Une pensée sourde.
Sourde, auquel nous n'avons pas tous nécessairement accès en tant qu'entendants. Il y a des choses qui, même quand on est bilingue, on se dit, ah, ça, je pense que j'ai du mal à comprendre parce que ça n'est juste pas ma façon d'appréhender le monde.
Pourtant, paradoxalement, la surdité est qualifiée de déficience. Donc, on laisse entendre, bon, voilà une nouvelle fois, qu'on a quelque chose en moins, qu'on ça infériorise.
Mais c'est vrai que c'est beaucoup lié à la perception du handicap dans notre société. Mmh. C'est vrai que fut un temps, bon, ça ne monte pas à tant que ça, mais la prise en compte du handicap à travers la notion d'accessibilité, ça a commencé dans les années 50, avec cette idée de rendre accessibles des lieux qui ne l'étaient pas pour les personnes en fauteuil roulant. Donc ça a commencé un peu comme ça, et ça s'est un peu étendu, et Le handicap a au moins été un levier pour la reconnaissance de la surdité et pour faire exister les personnes sourdes dans la société, mais elle est devenue maintenant quelque chose qui enferme dans une déficience alors que eux ne le vivent pas comme une déficience. C'est très différent pour tous les autres handicaps. C'est vrai que les sourds, pour eux, il y a une histoire d'oppression de la langue qui existe. On a le congrès de Milan de 1880 qui a regroupé une bonne partie des pays d'Europe dans lesquels a été prise la décision d'interdire la langue des signes et de forcer les enfants sourds à parler. Donc on leur attachait les mains dans le dos, enfin, ça a été quelque chose d'extrêmement violent. Et une grande partie des sourds se reconnaissent ensemble dans cette oppression. Donc le lien, c'est la langue des signes. Et cette langue des signes, elle est perçue comme sortant d'un handicap, puisqu'elle naît d'une déficience auditive. Et la déficience auditive était perçue comme, voilà, c'est perçu comme un handicap, et le handicap est parfois encore un petit peu mal perçu parce que c'est autre, même si maintenant on voit bien que pour avoir créé le mot de validisme, c'est qu'il y a un moment donné où...
Il a fallu se positionner.
C'est ça. Donc ça évolue.
En tant qu'enfant, on se construit avec ce sentiment d'être évidemment différent, d'avoir quelque chose en moins. Alors que là, depuis tout à l'heure, tu nous expliques que c'est un monde et c'est quelque chose en plus.
Ben, oui, c'est quelque chose d'autre. C'est une nouvelle appréhension du monde qui permet effectivement... Oui, c'est quelque chose d'autre. Ça n'empêche qu'effectivement, il y a une situation de handicap. Situation de handicap, ça permet de bien marquer le fait que l'handicap n'est pas une identité. C'est une situation parce qu'il y a des choses qui, dans une majorité de personnes qui sont dites dans la norme normale, et ben du coup les autres sont un petit peu n'ont pas accès. Et c'est vrai que ça c'est ce qui permet de définir la situation de handicap. C'est vrai qu'il y a des moments, enfin moi dans mon travail, je travaille avec les personnes sourdes, et pour le Festival Signaux, pour les soucis qu'on a pu rencontrer, si je n'avais pas été là en tant qu'entendante, concrètement, il y aurait eu beaucoup de problèmes, parce qu'il faut appeler. Il faut appeler, et c'est difficile d'avoir un interprète qui puisse appeler par visio, enfin c'est compliqué, et c'est vrai que le monde est beaucoup... Enfin le monde, la façon dont notre société fonctionne est beaucoup faite pour les entendants, mais maintenant, ce qui crée la situation de handicap, mais le fait de travailler ensemble et de savoir, de respecter nos deux façons d'appréhender le monde, nous permettent de travailler ensemble et d'atténuer cette situation de handicap et d'éviter d'en faire une identité. On n'est pas handicapé. Pour les sourds, en tout cas, ils sont en situation de handicap, mais pour eux, ils ne s'identifient pas comme handicapés, juste comme ayant une autre culture qui est liée au fait qu'ils ont quelque chose en moins, qu'ils ne vivent pas comme en moins parce qu'ils ne l'ont jamais eu.
Voilà. Mais... Donc la langue des signes est utilisée dans le cadre des spectacles. De plus en plus, là ça rentre, on parlera un petit peu de ça tout à l'heure dans le champ public, dans l'espace public. Ce qui reste important, c'est l'accès à l'administration, le travail. Donc je suppose que... Alors je ne sais pas s'il y a des lois d'ailleurs.
La loi qui a le plus marqué, c'est la loi de 2005 sur le handicap. On l'appelle grossièrement la loi sur le handicap, mais en fait, c'est effectivement une loi qui reconnaît pour les sourds, parce qu'elle touche beaucoup de personnes en situation de handicap, mais elle, pour les personnes sourdes, ça reconnaît la langue des signes comme une langue française à part entière, aux côtés de la langue française. Elle est vue, voilà, comme une autre langue. Et ça, c'est quelque chose qui était très fort pour les personnes sourdes à l'époque. On n'a pas forcément découlé l'accès à l'éducation, enfin l'accès à la langue des signes pour les enfants sourds, puisque du coup, en promotion de l'inclusion, c'est un petit peu le contre-coup de ça, c'est qu'en fait, avec la promotion de l'inclusion, on a fermé des classes spécialisées pour les enfants sourds avec la langue des signes pour les intégrer aux côtés des enfants entendants à l'école. Mais avec d'autres problèmes que ça a posé au niveau des interprètes, voilà, là, c'est des questions qui sont purement politiques et financières et qui me font verser sur un côté politique. Et je pense que c'est peut-être pas la peine de me lancer là-dedans. Mais voilà, il y a eu un... Ça n'a pas forcément fait découler plus d'accès pour les enfants sourds à leur langue. Par contre, les entendants ont eu beaucoup plus accès à la langue des signes. Ça, il y a eu une diffusion, alors peut-être pas à partir de cette loi, mais le fait que depuis des années, les sourds travaillent pour la visibilisation de la langue des signes, disons pour la faire connaître le plus possible aux entendants, montrer qu'elle existe. Et donc, du coup, il y a de plus en plus d'entendants qui veulent apprendre la langue des signes. Et c'est vrai que, paradoxalement, on n'a pas vraiment de... Enfin, on n'a pas vraiment, oui, un développement quand même des écoles, par exemple, bilingues, on en a à Toulouse. Et il n'y en a pas beaucoup, beaucoup d'autres ailleurs. Donc, c'est vrai qu'il y a un paradoxe aussi qui fait que la loi ne fait pas tout aussi. Il y a une loi, et après, il faut que ça se décante, il faut que tout le monde s'empare de ça à son niveau et que ça demande, ça travaille sur des années et des années, quoi.
La communauté sourde est plutôt soudée.
Oui, il y a quand même une bonne, oui, il y a une bonne dynamique là-dessus. Pour le coup, il y a beaucoup d'accords entre les sourds. Il y a beaucoup d'entente là-dessus. Il y a un militantisme qui existe. Après, partout, non, tous les sourds ne sont pas forcément concernés. J'ai pas vraiment de chiffres en tête, donc je m'avancerai pas vraiment. Mais oui, il y a quand même une dynamique à chaque fois de revendication. Voilà, de revendications de... Il y a eu, je crois, récemment des fermetures de places en école bilingue. Donc ça s'est beaucoup mobilisé en disant, bah non, ce n'est pas possible. Ou des enfants qui ont été refusés, je crois. Des enfants qui ont été refusés, enfin voilà, des choses comme ça. Et là, la communauté se mobilise beaucoup pour ces questions d'éducation, d'accès à la culture, d'accès à la langue. C'est très important, parce qu'après, c'est ce qui permet aux personnes sourdes d'être incluses, enfin, en tout cas, de pouvoir peut-être aussi mieux s'intégrer dans le monde professionnel ensuite. Voilà, c'est des questions qui sont quand même très importantes et là-dessus, la communauté est quand même relativement bien soudée.
On peut s'écouter un peu de musique.
J'aurais bien aimé que tu mettes celle de François de Roubaix.
Ouais. Donc François de Roubaix, ce qu'il faut rappeler, c'est un compositeur de musique passionné par la mer, la plongée. Il a beaucoup écrit sur le monde du silence. C'est évidemment pour ça qu'on a choisi. Et il a disparu en mer. Donc c'est aussi un hommage, voilà, à François de Roubaix et à mon papa aussi.
Thank you.
dernier domicile connu de François de Roubaix. J'ai lu quelque chose sur l'oralisme et l'idée que peut-être ce serait une pensée, en tout cas une technique plutôt individuelle, puisque si je parle pas très fort, peu de personnes peuvent entendre. C'est préférable dans le cadre d'un face-à-face, alors que la langue des signes permet un plus grand nombre de pouvoir comprendre, donc peut-être un imaginaire plus collectif.
Je sais que c'est assez intéressant, que je n'ai jamais vu ça comme ça. Vous savez que la langue des signes, elle a... Le côté visuel fait que ça peut parler un peu à tout le monde, même si c'est une langue et que du coup il y a une syntaxe, etc. Les signes sont visuels, donc ça peut porter plus à tout le monde. Et sourd ou entendant, on peut comprendre ou se laisser porter en tout cas par les signes si on ne les comprend pas. C'est vrai que l'oralisme, surtout face à des personnes sourdes, ça peut quand même poser un peu souci, mais c'est vrai que ça peut être vu effectivement comme plus individuel parce que... La portée ne sera pas la même. On ne voit pas, comme dirait la comédienne, on ne voit pas les mots sortir, on ne voit pas les images sortir. Alors que sur les signes, c'est vrai qu'on peut avoir une expérience plus collective ensemble que sur l'oralisme. Enfin, l'oralisme, c'est en plus surtout vraiment une méthode. Enfin, c'est ce qui est vu comme un peu imposer la langue des signes et la langue orale aux personnes sourdes. Donc c'est vrai qu'en plus, c'est une façon de penser qui est très peu respectueuse C'est bizarre de se dire que c'est pas grave, si on n'entend pas, on pourra quand même parler, puisque c'est comme ça qu'on communique. C'est une façon un petit peu réduite, je pense, d'appréhender la façon dont on peut communiquer ensemble.
Oui, ça nie plein d'autres possibilités de communiquer.
C'est ça. Il y a différents types d'adaptation, en fait. L'adaptation, nous, on peut le voir un petit peu... Presque, bon, c'est un parallèle comme un autre, mais comme du surtitrage. Sauf que c'est un joli sous-titre qui est adapté au fait que les personnes sourdes ne peuvent pas regarder l'écran et la scène. Là, ils vont louper des informations. D'autant plus que beaucoup de sourds ne gèrent pas complètement la langue des signes et la lecture, puisqu'on disait qu'il y avait un problème, un parcours dans l'éducation qui était un petit peu compliqué. Donc, il arrive encore que des personnes sourdes aient des soucis avec la lecture. C'est pas leur langue, donc pour eux, c'est quand même très fatigant. Donc du coup, c'est des sous-titres qui sont adaptés, c'est-à-dire que les interprètes sont sur scène et signent sur scène.
C'est toi l'intendante.
Mais... Oui, c'est moi l'intendante. Eux, ils sont interprètes, entendants aussi, mais ils ont une compétence en plus. Ils ont une petite compétence supérieure à la mienne. Et eux, ils sont là. Alors, ils ont parfois traduit le texte. Parfois, les textes sont tellement denses en français que du coup... Il va y avoir des contractions, c'est-à-dire ça arrive que, par exemple, je sais pas, dans un face-à-face entre deux comédiens qui va extrêmement vite, une dispute ou que sais-je, je me souviens plus dans quel spectacle c'était, mais il y avait ça. Donc c'était deux entendants qui échangeaient à toute vitesse, et le comédien sourd qui devait traduire ça a dit, mais en fait au plateau, c'est impossible, ça ne va rien donner pour les personnes sourdes, elles ne vont rien comprendre. Donc lui, il est à côté, et ce qu'il fait, c'est une synthèse de la dispute qui a lieu au plateau. En fait, l'adaptation, il est là pour donner le sens sans pour autant être même le spectacle. C'est la différence du bilingue où la comédienne ou le comédien sourd est le spectacle, il fait partie du spectacle. Pour une adaptation, le spectacle existe seul et eux sont là pour rajouter un petit plus au spectacle qui permet que le spectacle soit ouvert aux personnes sourdes. Mais ils ne sont pas le spectacle même, donc il ne faut pas qu'ils viennent remplacer le spectacle. Il faut que les sourds puissent voir les autres comédiens.
Et oui, puis ressentir, hein, puisque c'est un spectacle, donc émotion.
C'est ça. Lumière et même jeu des comédiens entendants, parce que le jeu est énorme. Enfin, le jeu, c'est aussi la gestuelle, c'est le corps. Et ça, les sourds l'ont très bien. Ils sont l'appréhendent, puisque c'est vraiment leur façon d'appréhender le monde. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut leur laisser aussi et qui fait partie du spectacle. Donc c'est un équilibre très précaire, l'adaptation. C'est un métier qui gagnerait à être plus reconnu. C'est pas encore vraiment le cas, mais on y arrive petit à petit. Et c'est vrai que c'est un métier qui ça vient se poser sur un spectacle déjà existant. Donc ça demande de l'équilibre, des relations avec l'équipe et que l'équipe avec laquelle enfin, l'équipe d'adaptation travaille, elle travaille avec une équipe de création, mais que cette équipe de création accepte aussi d'être déplacée. C'est ce que me disait une...
Comment tu dis ?
Déplacée. C'est ce que disait une Géraldine Berger, qui est une comédienne entendante qui est bilingue, qui a performé longtemps avec la langue des signes sur scène et qui a décidé d'arrêter et qui se place maintenant du côté de la traduction-adaptation. Et elle me disait qu'en fait, ces expériences, ces multiples expériences, notamment avec la Comédie de Valence, lui ont fait se rendre compte qu'il faut que l'équipe accepte que faire une adaptation, ça demande aussi de déplacer un peu la mise en scène et que ça n'est plus un interprète sur le côté, puisqu'un interprète sur le côté, pour les personnes qui le voient, pour elles, elles ne sont pas dans le spectacle, elles sont juste là, voilà. Elles ont le mérite d'être là et l'interprète est là, mais elles ne voient pas le spectacle, en plus elles ne voient que l'interprète. Donc c'est compliqué à gérer pour elle. Et donc du coup maintenant l'adaptation, ça demande de travailler ensemble et ça n'est des fois pas encore tout à fait pas tout le temps accepté, mais pourtant ça permet de belles rencontres,
ouais,
quoi.
Vrai challenge.
Oui, c'est un travail.
Voilà, le festival parle de mixité. On a effectivement parfois l'impression de deux mondes vraiment séparés avec le confinement, avec les masques. Ça a dû créer un isolement très violent.
Oui, il y a eu un... cet isolement, en fait, il a beaucoup été perçu justement dans l'accès à l'art et à la culture, puisque par exemple, pour les entendants, nous, on a vu beaucoup de plateformes se développer, beaucoup de théâtres qui ont fait des diffusions en ligne, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Enfin, l'accès à la culture et à l'art pour les personnes sourdes, moi, je reste persuadée qu'elle est encore un petit peu trop dépendante des murs, des lieux de culture. Puisqu'en fait, les personnes sourdes vont voir un spectacle qui leur est dit accessible et qui l'est parce que des lieux ont décidé de le rendre accessible. Il y a ce que disait Géraldine Berger aussi, c'est il y a ce côté de nourrir les à côté. Nous, on est nourris tout le temps culturellement, on est toujours nourris, on a des brochures, on écoute la radio... On a accès à beaucoup de choses, on est sollicité. Ouais, ouais. Et les sourds, l'accès à la culture est beaucoup par le plateau. Et bien sûr, maintenant avec YouTube, etc., toutes ces plateformes, ça se développe un peu, mais ça reste encore beaucoup lié au mur des théâtres. Et quand ces théâtres ont fermé, eh bien, il y a eu un isolement culturel qui a été ressenti quand même comme assez fort. Et du coup, voilà, après la mixité, nous, on se place pas forcément par rapport au confinement, mais par rapport à l'accessibilité. C'est-à-dire le fait de rendre accessible un spectacle sans, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'interprète sur le côté. Ça, c'est un spectacle qui est dit accessible, mais pour les personnes sourdes, elle ne l'est pas. Parce que, enfin, le résultat est là, oui, c'est sûr, selon la loi, selon les quotas, c'est accessible. Bien, un comédien, il interprète la langue des signes, il a le mérite d'être là. Mais si on ne s'intéresse pas au processus, ça n'est pas vraiment... Enfin, ça ne peut pas forcément marcher. Enfin, c'est très violent pour une personne sourde de se dire que bon, le spectacle, il est accessible, ok, mais j'ai juste un monsieur sur le côté et moi, je ne vois pas le spectacle. Pour moi, ça n'est pas accessible. Ça n'a pas été une belle expérience. Et c'est que l'accessibilité, comme c'est beaucoup régi par des lois et parce que on régit beaucoup par les lois, une loi ne s'intéresse pas forcément au processus, on s'intéresse au résultat. Et c'est quand même important de se dire, pas juste l'accès, mais comment est-ce qu'on rend accès ? Sur un autre volet de l'accessibilité, un théâtre que je nommerai pas est dit comme accessible pour les personnes en fauteuil roulant. La personne en fauteuil roulant, elle passe par le monde charge derrière. C'est l'humain qu'on remet. Quand on s'intéresse à comment est-ce qu'on rend accessible, enfin comment est-ce qu'on donne l'accès, on pense à l'humain. Si on pense qu'au résultat, on pense beaucoup plus au quota et l'humain derrière est un petit peu perdu, alors que c'est quand même des humains qui ont accès à ça, quoi. Ça peut paraître un peu naïf, mais je trouve que c'est quand même de moins en moins naïf de se dire qu'il faut penser à l'humain et comment est-ce qu'on avance, parce qu'à force de dire que c'est naïf, en fait on déshumanise tout et il y a une perte de lien, et ça arrive avec une perte de lien et une perte de connexion entre des personnes qui pourtant pourraient avoir une connexion si on faisait un petit peu attention à l'autre.
Oui, ça renvoie à quelque chose de technique.
Oui, c'est ça. Alors que ça peut juste être du lien et de l'interaction. C'est quand même pas si, c'est pas si compliqué. Si, ça l'est, la preuve, on n'arrête pas d'en parler. Mais si on y pense comme ça, moi je suis persuadée qu'il y a vraiment plus de possibilités qui peuvent se créer. Et se dire qu'un lieu est accessible lorsque les personnes en fauteuil roulant passe par un monde charge, on peut tous commencer à se dire que c'est petit peu compliqué, quoi.
Oui, mais ça respecte la loi, donc le théâtre a le sentiment de bien faire les choses et voilà. D'avoir
tout
fait
en,
les choses.
Tout en sachant que c'est la, enfin, là, quand on nous en a parlé, la personne savait que c'était incroyablement impossible, mais que pour l'instant, ils n'avaient pas les moyens aussi de faire autrement, puisque c'est vrai que ben, ça demande d'autres... Voilà, c'est refaire certaines parties d'un lieu, donc c'est pareil, ça pose d'autres questions financières, mais... Mais voilà, s'intéresser à ça, c'est pour moi la mixité, c'est à, justement ça s'intéresse justement à ce processus-là. La mixité, c'est vraiment deux cultures qui se rencontrent, des personnes qui se rencontrent et qui se respectent à égalité. On va pas à quelque chose d'accessible pour les, on l'a pas ouvert gentiment pour les personnes sourdes, on l'a créé pour que tout le monde puisse y aller, sourd comme entendant. Voilà, pour moi c'est des choses qui sont importantes. Après, c'est vrai qu'on pourrait réfléchir longuement sur l'utilisation du terme de mixité. C'est vrai que mixité n'implique pas nécessairement que du coup les deux sont à
un
égalité.
Un mélange, ouais.
On a créé ce concept de mixité justement parce qu'il y avait une domination. L'existence d'une majorité et d'une minorité, on est obligé d'inventer un mot de mixité pour dire, regardez, les deux peuvent cohabiter. C'est, pour la mixité homme-femme, c'est un peu pareil. On a été obligé de mettre ça en avant pour que les femmes soient... un peu plus tirée dans le... soit plus acceptée dans des mondes où elle ne l'était pas nécessairement avant, parce que vu comme pas le leur, qui s'adapte sur des critères que j'ai un peu de mal encore à comprendre. Mais on peut s'interroger encore des heures sur ce concept-là. Peut-être que ça ne met pas réellement à égalité les entendants et les sourds quand on utilise la mixité dans ce cadre-là. Peut-être que ça revient encore à dire qu'on crée la mixité parce qu'il y en a un qui est en dessous de l'autre et qu'on est obligé d'utiliser un terme pour les lier qui ne va pas avec une égalité de fait.
Mais ça me fait penser à la discrimination positive.
Oui, c'est ça.
Parfois, il faut imposer pour que ça devienne une évidence.
Bah oui, de toute façon, on fonctionne beaucoup avec ces histoires de quotas. Donc, mais en fait, c'est comme ce qu'on disait avant. En fait, le quota, c'est bien. Bon, c'est bien. Disons que ça a le mérite de faire bouger les choses, puisque c'est comme ça qu'on fonctionne. Pareil, c'est lié à une culture aussi, ça, hein. Ça tombe pas du ciel non plus. Et mais peut-être s'intéresser à comment on arrive à ce quota, et pas juste ouvrir pour ouvrir. S'intéresser qu'au résultat, ça veut pas forcément dire que l'expérience sera belle et appréciée par les personnes qui sont concernées par ces quotas. Et pour moi, c'est vraiment très important qu'on se focus là-dessus. Et le festival, on a essayé beaucoup de travailler à partir de ce concept de mixité. On a essayé de construire notre équipe, enfin, on a construit notre équipe pour qu'on montre bien qu'on coexiste ensemble et qu'on respecte les deux cultures. On a travaillé ensemble. C'est plus quelque chose qui... On n'a pas eu besoin de faire de sensibilisation à la langue des signes ou de sensibilisation au validisme ou que sais-je, parce que bon, voilà, ça fait longtemps que les personnes avec qui je travaille connaissent ces enjeux-là. Mais c'est quand même des piliers qu'il faut sans cesse aussi remettre sur le tapis, parce que ce n'est pas forcément acquis et que ben, travailler ensemble aussi, ça demande toujours des réajustements. C'est ça qui est chouette aussi, de se dire que rien n'est acquis en soi et que du coup, il faut toujours un peu se remettre en question, réfléchir à comment on pourrait mieux faire. Et c'est sur plein de choses. Et quand on le monte à beaucoup plus large échelle, forcément, ça implique beaucoup plus de monde. Et quand on commence à impliquer l'administration, alors là, je pense que des papiers, des choses comme ça, qui peuvent se... Voilà, ça peut compliquer la situation, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible non plus. Il faut juste laisser du temps à la chose aussi et au cerveau, à la société, enfin, au cerveau d'accepter aussi cette donnée-là. Moi, je pense que ça avance quand même un peu. On ne peut pas dire que ça s'ouvre quand même. Il y a beaucoup plus de choses qui se font. Mais c'est vrai que mettre dos à dos mixité et accessibilité, ça permet aussi voilà, de replacer les enjeux et de plus s'interroger sur ce que les personnes concernées par ces quotas ont réellement besoin. Voilà, les comédiens sourds, ils ont envie d'être considérés comme des professionnels, ce qui n'est pas encore forcément le cas. Voilà, ils ont envie de jouer dans des spectacles, mais ils sont relégués à la langue des signes, au fait que, voilà, peut-être que ça n'intéressera pas les entendants, que ça ne sera pas ouvert aux entendants, alors que bien sûr que si, du moment qu'on laisse la possibilité qu'on travaille en mixité, c'est tout à fait possible. Enfin, voilà. Mais c'est des questions qui s'ouvrent beaucoup quand même, et c'est comme tout.
Un autre point, peut-être un peu de crispation autour des fameux mouvements de résistance contre les implants, contre la médicalisation.
Oui, alors moi je suis pas spécialiste de ça, mais c'est vrai qu'en fait cette espèce de refus de la médicalisation et de l'implant, ça naît quand même beaucoup du fait qu'on l'impose aux enfants sourds sans, parce que notamment pas, enfin c'est par les parents entendants nécessairement, parce que l'enfant est différent et du coup on ne laisse pas forcément le choix à l'enfant en soi. C'est vrai que un enfant sourd dans la société dans laquelle on vit, il va rencontrer beaucoup plus de problèmes que des enfants entendants dans des familles sourdes, dans l'accès à l'éducation, etc. Mais c'est vrai que l'imposer directement à un enfant, ça les sourds un petit peu mal, parce que ça veut dire que, oui, ça voudrait un petit peu dire que quand on est sourd, on est un petit peu bâtard, enfin, on n'est pas normal, donc il faut changer ça. Et on peut le faire par le médical, alors autant le faire. Mais ça arrive aussi que ça loupe beaucoup et que ça rate, ces opérations peuvent rater, et ça laisse quand même des séquelles sur ces enfants qu'ils auront à porter toute leur vie, alors que, et je dis pas que c'est simple, mais alors que si on laisse ces enfants-là, qu'on arrive à les faire grandir avec la langue des signes, leur donner accès à la langue des signes, etc., ils peuvent choisir eux-mêmes ensuite l'implant. C'est pas quelque chose, enfin, ou en tout cas l'appareillage, c'est pas quelque chose qui est tabou. C'est juste que c'est peut-être un choix qui peut être fait par eux, parce que c'est quand même très violent de ne rien entendre et que d'un coup on nous oblige à entendre, et c'est extrêmement violent pour les enfants, peu importe l'âge, enfin voilà. Donc c'est peut-être juste, c'est beaucoup ça. Après, je suis pas une extrême et j'ai pas beaucoup, enfin, sur cette question-là, ça, c'est pas être extrême, mais c'est, je me suis un peu documentée, mais j'ai beaucoup la parole des sourds et donc du coup, je n'ai pas beaucoup de recul aussi par rapport à ça, donc je préfère pas non plus trop m'avancer, mais j'ai vraiment la sensation que c'est ça, c'est le fait qu'on l'impose directement sans laisser à l'enfant la possibilité de se développer dans cette surdité. Surtout que maintenant, il y a quand même une forte communauté, un accès à la langue des signes qui est possible. Beaucoup d'obstacles dans l'éducation, mais dans le parcours éducation, mais bon.
Oui, ça ramène au choix et au fait de revendiquer d'appartenir à une communauté, puisque c'est une culture à part entière.
C'est ça. Et puis c'est vrai que les parents sourds, aussi, ouais. C'est ça. Les parents sourds n'ont pas la possibilité de rendre sourd leur enfant. Et ils devront vivre avec deux cultures différentes et des enfants qui auront une culture pas comme la leur, et ça n'empêche qu'ils seront une famille et qu'ils s'entendront très bien. C'est vrai que le fait que des parents aient la puissance de rendre entendant un enfant sourd, c'est... Pour les personnes sourdes, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est des questions qui sont très ambivalentes et on aura, je pense, toujours un peu les deux écoles. Mais c'est aussi pas mal de réussir à montrer que la médicalisation de la médicalisation de la surdité peut des fois aussi poser des soucis et qu'il y a d'autres façons d'appréhender la surdité. Pour ce qui est de les aveugles, etc., c'est quand même une autre question. Mais pour les sourds, il y a une possibilité d'évoluer tout en étant sourd. Et peut-être que plutôt que de partir directement sur le médical et sur le prisme et le champ lexical de la réparation, voilà, on peut laisser avancer. Enfin, on peut vivre différemment. Maintenant, je peux comprendre que des parents entendants aient du mal à créer un lien avec... Enfin, se disent, on va avoir du mal à créer un lien avec notre enfant sourd, mais des associations existent justement pour aider ces parents-là et il y a moyen de vivre avec ça, quoi.
Un peu de musique, ça te dit ?
Parfait. We'll be right back.
But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it my own. So baby, can't you see, I've got to break free. I've got to break free.
Voilà Queen, un petit groupe qui débute. On leur souhaite.
On leur souhaite tout bonheur.
Tout bonheur du monde. Alors, le 17 septembre, le monde entier attend cette soirée. Parce que va-t-il se passer au phare, la fameuse Dev Party ?
Eh oui, la fameuse.
Qu'est-ce que c'est que la Dev Party ?
On s'est tous posé la question quand l'équipe nous a dit oh, on ferait faire une Dev Party. Oui, bien sûr. Eh bien, en fait, une Dev Party, ça va être une soirée où. L'objectif, ça va être de vivre la musique comme les sourds la vivent. Donc, pour la programmation, on va avoir du chant signe. Donc, c'est de la musique signée. Enfin, c'est vraiment le... Voilà, c'est du chant signe. J'arrive jamais à l'expliquer. C'est,
ouais.
C'est de la musique dans le mouvement, avec des signes. C'est des chansons, des poèmes qui sont écrits et qui sont ensuite signés. Et ce qui apporte le côté musique, c'est la... La théâtralisation du signe, c'est le on va rajouter du... C'est le côté un peu chorégraphié.
C'est pas de la traduction, là. On est vraiment sur des créations originales.
Ça peut être de la traduction de chansons. Hein. Il y a des chansons qui existent. Par exemple, Amazing, qui est une création de danse des signes. Amazing, il y a du chant signe sur Cyndi Lauper. Je vais y arriver, on la connaît tous.
Ouais, bien sûr.
Et là, je n'arrive pas.
Moi non plus.
Girls Wanna Have Fun.
Ah, mais oui, voilà. Évidemment.
Girls. sur Sarah Perchettiamo. Enfin, il y a du chansigne sur ces chansons-là. Hein. C'est vraiment ça existe. Après, là, Vincent Vitlam, je ne sais pas ce qu'il nous fera, mais c'est vraiment de la chanson vécue par les sourds, donc à travers le signe, le rythme est donné par le corps, par les signes. Donc voilà, on va avoir du hip-hop en langue des signes. Ça va être une grande découverte pour moi aussi. Mmh. Et on va avoir un DJ sourd. Donc du coup, on a en fait toute une installation dans la salle qui est faite pour que les sourds ressentent les vibrations, puisque c'est comme ça aussi que passe beaucoup la musique. Donc on a des intrabasses là, sur tout le long de la scène là, pour faire ressentir les vibrations, donc la musique très fort et des très fortes basses.
C'est-à-dire le phare a réimaginé totalement la scène en mettant plus d'infrabasses.
Oui, les régisseurs ont l'habitude de travailler avec les sourds. Ils étaient sur les précédents ouais. Festivals Signaux, pardon. Et le régisseur son a beaucoup travaillé avec les sourds. Ils ont, comme c'est en lien avec Baro Elmar, qui s'occupe aussi du phare, ils ont fait une création chez Régé Awele, qui est avec de la langue des signes, du hip-hop en langue des signes et du texte en voix off. Donc, ils connaissent vraiment les problématiques, on va dire, effectivement, du ressenti de la musique pour les personnes sourdes. Et donc, du coup, voilà, ça a été fait pour, avec des gros caissons et des gilets vibrants. On a la ville de Toulouse qui nous prête des gilets vibrants. Et il y aura un stand avec les gilets vibrants, pour ressentir plus les vibrations, bien que je pense qu'avec l'installation qui est faite, ils n'auront pas nécessairement besoin des gilets vibrants. Je pense que pour les entendants, c'est pas quelque chose qui nous est vraiment ouvert, en fait. Enfin, non pas que ça soit pas ouvert aux entendants, mais je pense qu'on peut très facilement...
Il faut mettre des méga cases de chantier, là.
Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'en fait, les vibrations peuvent très très vite nous atteindre, quand même. On n'est pas biologiquement foutu pour ça, mais c'est un peu ça, quand même. Je pense qu'on vit pas, on n'a pas le même rapport aux vibrations. Je pense que les personnes entendantes,
C'est les BPM, c'est ça, oui. C'est les battements du cœur, donc...
Donc voilà, après c'est vraiment un moment qui est vraiment pour les publics sourds, et ça je pense que c'est très très important aussi d'avoir un espace pour eux. Mmh. On y est, on peut y aller, mais voilà, tout comme il y a des espaces où c'est pour quand on aura dans le cadre de la surdité pour les entendants, c'est un peu ces idées d'espace non mixte dont on a aussi besoin pour plus de mixité. Et ben là, je pense que cette dev party, c'est bien, c'est pour les personnes sourdes. Et les entendants sont les bienvenus et on y va avec des casques.
Et c'est un DJ, c'est ça ?
On a un DJ anglais, qui est très connu en fait en Angleterre, qui tourne bien sur les death rave. Alors ils appellent ça les death rave là-bas. Okay. Et il a beaucoup d'expérience là-dedans, donc il va venir. La dernière partie, ça sera vraiment pour danser, vraiment une pure boom.
C'est bien de terminer par une boom.
Oui, c'est ça, le samedi soir. De toute façon, c'est un peu fait pour ça.
Ça m'évoque un petit peu justement les représentations des sourds et sourdes dans la culture populaire à travers les films, le théâtre, sur les vibrations. Ça m'évoque un passage de Babel. On a un petit peu échangé autour. C'est un film d'Alejandro González Iñárritu, dont un des personnages, une japonaise, est sourde. Et il y a une scène dans une boîte de nuit où justement la bande-son joue avec la musique extrêmement forte et les silences, On peut peut-être écouter ce court passage, ça permettra aussi d'écouter du silence à la radio, c'est quand même un acte politique. Voilà, j'ai volontairement laissé le mixage un peu sursaturé parce que le personnage rentre dans une boîte de nuit et d'un coup happé par les vibrations. C'est un peu ce qu'on était en train de dire. Et pour la petite anecdote, j'étais projectionniste à l'époque et le réalisateur est passé comme consigne de mettre le volume sonore de ce film à un niveau vraiment hyper fort pour cette scène en particulier, c'est-à-dire pour que la salle d'un coup se prenne les basses un peu comme la Def Party et ressente ce que peut ressentir une sourde avec les vibrations de la musique, l'énergie et tout ce qui se passe autour de la boîte de nuit. Tout à l'heure on échangeait un petit peu sur les films, la culture populaire et on est arrivé à la conclusion qu'on n'avait pas énormément en fait d'exemples en tête, mis à part Les Enfants du Silence qui date de 1987.
Et qui a obtenu à Emmanuel Labouré premières récompenses au cinéma. Mais c'est vrai qu'après... je suis beaucoup les Marvel. c'est chacun sa culture. et je sais que sur un des derniers Marvel que je n'ai pas vu, il y a eu une comédienne sourde, une actrice sourde apparemment, qui était là. Et ça a fait beaucoup de bruit en soi, parce qu'on reste... Pardon, sur le bruit, ça me travaille mon vocabulaire. Et parce que c'était l'idée que ils ont mis une personne sourde pour mettre une minorité là, et puis point barre, et c'est pas utilisé. On sait que dans la représentation de la culture populaire, je pense que là, en plus, on commence à arriver sur toutes ces polémiques qu'on voit arriver au cinéma ou dans les séries. Moi, je suis plus série, donc... qu'on voit arriver sur les représentations des minorités, avec un gros guillemet, donc sur le fait qu'en plus on focus sur la non-normalité de cette personne-là, sur une norme blanche, hétéronormée, etc., comme on en parle beaucoup en ce moment. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de toujours eu pour mettre une actrice sourde, machin, franchement ça sert à quoi, elle est inutile, machin. Donc n'ayant pas vu le film, je ne peux pas dire si le fait qu'elle ait la langue des signes ait été beaucoup utilisé et intégré dramaturgiquement au film, mais ça commence à poser des questions justement sur ces courants-là de visibilité des minorités. Donc ça vient se poser sur... Ça vient se poser sur un champ très politique, en fait, maintenant, de nos jours, je pense, en 2022, à travers toutes les questions de ces minorités. Je pense qu'en plus, on va avoir beaucoup de problèmes à ce niveau-là, petit à petit, en fait, sur l'utilisation des minorités pour rentrer dans les quotas. On revient.
Tu veux dire que ce soit juste un prétexte ?
Et je pense que le problème, c'est que tout le monde focus sur ce qui fait la différence de cette minorité-là. Et c'est vrai qu'on avait peu de visibilité de ces personnes-là avant, parce que la langue des signes n'était pas très vue, que la communauté sourde n'était pas très visible. Et maintenant, bah, le pendant inverse, qui fait que maintenant, quand on en met, ça rentre dans des quotas et on accentue sur ce côté-là. Donc c'est vrai que c'est très bizarre. Présentation de la culture populaire, je pense que là, on arrive dans la culture populaire, pardon, je pense que là, on va arriver à un obstacle, à un éclat de visibilité des minorités, tout en devant jouer le rôle pour lequel elles sont là, la raison pour laquelle elles sont là. Mmh. C'est ce que je veux dire ou
pas ? Ouais, arriver à se détacher en fait de sa particularité. On n'est pas que sa particularité, mais
c'est ça. Le levier redevient un moyen d'oppression. Et c'est ça qui est intéressant dans la façon dont on fonctionne. Et peut-être que c'est justement un indice du fait que les combats avancent. Parce que les combats avancent, c'est visible. Donc maintenant, tout le monde les refuse. Et puis au bout d'un moment, ça deviendra une norme.
Oui. Et peut-être. On n'y fera plus attention.
Peut-être que c'est d'ailleurs une très belle chose.
Signaux, mais c'est un peu différent parce que c'est du spectacle vivant et ça permet plus de liberté et c'est surtout créer, imaginer en langue des signes. Donc c'est bientôt en plus.
Et oui, c'est tout bientôt, dès vendredi. On imagine autrement vendredi. On imagine en langue des signes vendredi. Oui, je pense que je vais être pas mal occupée. Après, on a une très grande équipe de bénévoles, donc une cinquantaine de bénévoles qui sont vraiment très bien organisés, ça tourne beaucoup, mais après je pense que je vais être sollicitée pas mal, mais on devrait avoir une équipe qui tourne, on aura forcément des problèmes, ça va avec, c'est le jeu, mais bon, je croise les doigts que ça se déroulera bien et que les publics seront contents et qu'on pourra les retrouver en 2024 et que peut-être on va ouvrir aussi à d'autres personnes, c'est vrai que on espère beaucoup que sur les allées verdiers, ça fera venir aussi du monde qui est juste de passage et qui pourra découvrir aussi ça. L'aimer ou ne pas l'aimer, tout le monde a le droit de ne pas aimer, de ne pas être intéressé par la langue des signes, ça n'est pas grave. Mais au moins l'auront vu et pourront peut-être en parler à d'autres en disant « moi j'aime pas » et ça donnera peut-être envie à d'autres personnes de le voir. On compte beaucoup là-dessus, cette occupation de l'espace public.
Ouais, voilà, visible dans l'espace public.
Ouais, on y compte beaucoup.
Super, tu as un dernier truc à rajouter ?
Il faut venir ? Non, en tout cas, on serait très heureux d'avoir plein de monde parce que c'est des événements qui existent très peu pour les personnes sourdes. Enfin, il y a des festivals un peu partout, mais c'est pas continu. Et c'est vrai qu'on est vraiment très, très fiers de pouvoir relancer ce festival avec des partenaires artistiques. Et ça, c'est très important pour nous, d'avoir des partenaires qui sont des théâtres. Mettre la langue des signes sur scène avec des comédiens sourds, vus comme des professionnels, c'est très, très important pour nous. On est très fiers et voilà. À découvrir, moi je trouve ça très chouette. Moi je suis tombée amoureuse et j'ai plongé dedans la soirée où j'ai rencontré cette culture et cette langue.
Merci Océane d'être venue, d'avoir accepté l'invitation et puis à très bientôt. Salut.
Salut.
Ciao.
Ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportée sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'encre sur